Eh bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure, à l'arrivée. Donc, comme vous voyez s'afficher sur l'écran, le thème que j'ai choisi, c'est la foi qui sauve. Bah oui, c'est un petit peu un message d'évangélisation, si on veut. Mais l'évangile, on a besoin de se rappeler toujours d'où on vient et où on va. Et c'est un peu ça, l'évangélisation. Alors, tous ceux qui lisent la Bible régulièrement savent que, surtout dans l'Ancien Testament, les généalogies occupent une place importante. Et on a quelquefois envie de passer par-dessus, de les ignorer. Pourquoi lire toutes ces listes de noms? Et pourtant, quand on connaît dans la culture juive l'importance qu'elles avaient, et puis dans les autres ethnies de l'époque aussi, on sait que avoir une descendance, c'était primordial. Une femme sans enfant, d'ailleurs, était considérée comme maudite. Et un homme sans héritier, il était méprisé. Il faut reconnaître que nous-mêmes, nous sommes fiers d'avoir des enfants. Tout à l'heure, on a vu comment Julie nous parlait de sa petite sœur avec un grand sourire, et puis Mathilde aussi. Et dès leur naissance, nous avons plaisir à les faire admirer par nos proches. Et puis quand ils grandissent, nous mettons en valeur toutes les choses qu'ils font, leur réussite scolaire ou sportive, ou même la moindre des choses qu'ils peuvent faire. Et puis, nous ne sommes peut-être pas non plus indifférents, insensibles au prestige de nos ancêtres. Il faut reconnaître que nous préférons sûrement avoir Einstein ou Beethoven dans notre arbre généalogique plutôt que Messrine ou Goebbels. Finalement, c'est ce qui justifie ces listes interminables de noms dans certains livres de l'Ancien Testament. Et toutes ces références aussi qui sont faites aux aïeuls ou aux parents qui avaient un quelconque prestige. Dans le Nouveau Testament, on trouve aussi des généalogies, et même le premier livre du Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu, commence par une généalogie. Alors là, avoir son nom dans cette généalogie-là, ça représente une grande fierté, parce qu'elle porte le plus beau des aboutissements, le Christ, le Messie, le Sauveur. Alors ce matin, je ne vais pas vous lire la liste complète de cette généalogie, mais je vais quand même tirer deux versets. Nous ouvrons donc l'évangile de Matthieu au chapitre 1, les versets 5 et 6. De Rahab, Salma eut pour descendant Boaz, de Ruth, Boaz eut pour descendant Obed, Obed eut pour descendant Isaïe, Isaïe eut pour descendant le roi David de la femme d'Uri. David eut pour descendant Salomon. Le nom que je voudrais extraire de ce court morceau de généalogie, je pourrais sortir David, hein, puisque c'est le roi le plus prestigieux qu'ait eu Israël. Il a donné à Israël toute son aura et c'est lui qui a étendu le territoire considérablement. Mais ce n'est pas de lui dont je vais vous parler ce matin, comme c'est affiché, je vais vous parler de Rahab. Et pour savoir qui est cette femme, eh bien, il faut se reporter évidemment dans l'Ancien Testament, au livre de Josué, chapitre 2, les versets 1 à 21. De Chittim, Josué, fils de Nun, envoya secrètement deux hommes chargés d'une mission de reconnaissance. il leur donna comme consigne « Allez explorer le pays, et en particulier la ville de Jéricho. » Ils partirent, et arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab, et ils y passèrent la nuit. On prévint le roi de Jéricho que les Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors il envoya dire à Rahab, « Livre-nous les hommes qui sont venus chez toi, qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. » Mais la femme emmena les deux hommes et les cacha, puis elle répondit, « Effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignore d'où ils étaient. » Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse de la maison. Elle les avait fait cacher sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangées là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au gué du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on ferma la porte derrière eux. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel, en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus de courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Maintenant, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que j'ai eue pour vous, vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et mes sœurs et tous les membres de leur famille et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. » Les deux hommes lui répondirent, « Notre vie répond de la vôtre, pourvu que tu gardes secret cet engagement envers nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. » Or, la maison de Rahab était construite dans le mur, dans les remparts de la ville. Elle habitait aussi sur le rempart. Ainsi, elle put faire descendre les deux hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. « Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent, et cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. » Les deux hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que nous avons prêté. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille. Si l'un d'eux franchit la porte de la maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans ta maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de leur mort. Toutefois, si tu divulgues cet engagement envers nous, nous serons dégagés du serment que nous t'avons fait. » Elle répondit, « D'accord, que ces choses soient comme vous l'avez dit. » Puis elle les fit partir et ils s'en allèrent aussitôt. Elle attacha un cordon rouge à sa fenêtre. Excusez-moi, j'ai un peu du mal de lire, j'ai fait ça un peu petit. Donc, vous savez que dans les généalogies bibliques, il y a eu très peu de femmes. En général, c'est souvent une liste de noms masculins. Et les femmes qui apparaissent dans les généalogies, eh bien, c'est qu'elles ont été remarquables. C'est qu'elles ont été vraiment spéciales et elles ont leur place dans les généalogies seulement dans de rares cas. Pourtant, cette femme, Rahab, c'était une prostituée. Ce n'était pas une femme extraordinaire par la vie qu'elle menait. En plus, elle faisait partie d'un peuple maudit, destiné à disparaître. La Bible nous dit que les habitants de Jéricho, comme ceux de toute la région, avaient une vie dissolue, plongée dans l'immoralité et l'idolâtrie. Et Dieu avait annoncé cette décadence déjà au temps d'Abraham, plus de 4 siècles plus tôt, au moment où Abraham avait promis le territoire à sa descendance, eh bien, il avait dit que cette population allait encore avoir une vie de plus en plus dissolue. Il avait dit les Cananéens ne sont pas encore au comble de leur idolâtrie, mais quand ils y seront, eh bien, je donnerai ce territoire à ta descendance. Rahab fait donc partie de ce peuple dont la perversité est arrivée à son comble. Et ces villes cananéennes sont vouées à la destruction pour les mêmes raisons que l'avaient été les villes de Sodome et de Gomorre. Rahab est donc un personnage sans avenir, issu d'un peuple maudit, et en plus, elle a une vie très exposée, puisque la maison de Rahab, nous dit le texte que nous avons lu tout à l'heure, est située sur la muraille. Alors évidemment, pour une ville assiégée, c'est une situation bien exposée à l'ennemi. Et l'ennemi, c'est ce peuple composé de 600 000 hommes qui a reçu l'ordre de prendre la place des habitants de Canaan. C'est ce que nous pouvons lire dans Exode au chapitre 23, les versets 31 à 34. « Je fixerai vos frontières et votre territoire s'étendra de la mer des roseaux à la Méditerranée et du désert du Sinaï à l'Euphrate, car je livrerai les habitants de cette région en votre pouvoir et vous les chasserez devant vous. Vous ne contracterez pas d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils ne demeureront pas dans votre pays afin qu'ils ne vous incitent pas à pécher contre moi en vous faisant rendre un culte à leur Dieu, car vous seriez alors pris à leur piège. » Rahab fait donc partie d'un peuple destiné à disparaître à cause de son idolâtrie, et de plus, elle est prostituée, donc passible de lapidation pour ceux qui intègrent le peuple d'Israël. Elle fait partie des personnes les plus exposées de la ville, puisque sa maison est sur la muraille. En cas d'attaque, elle sera parmi les premières victimes. Donc toutes ces circonstances sont défavorables. Son seul avenir possible semble être la mort. Et pourtant, nous avons lu dans la généalogie qu'elle était l'aïeule du plus grand des rois d'Israël et l'ancêtre du Christ. Qu'a-t-elle fait pour être épargnée ? Qu'a-t-elle fait pour obtenir un avenir aussi extraordinaire ? Le texte nous dit simplement qu'elle a reçu les espions chez elle. Et surtout, elle a confessé sa foi en l'Éternel. Nous avons lu ce verset 11 tout à l'heure qui disait « Car c'est l'Éternel qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Elle a donc fait cette confession de foi. Cette confession de foi, elle l'a fait parce qu'elle a pu avoir une rencontre opportune. Elle a demandé grâce aux envoyés d'Israël parce que le hasard fait que les espions sont allés chez elle. Et elle a cru et elle a mis en pratique ce qui lui avait été demandé. Nous avons lu le dernier verset, le verset 21 du grand texte que nous avons lu tout à l'heure, qui nous montre qu'elle n'a pas perdu son temps après le départ des espions. Il est dit, elle répondit, « D'accord, que les choses soient faites comme vous l'avez dit. Puis elle les fit partir, ils s'en allèrent, et aussitôt elle attacha un cordon à sa fenêtre. Par ce geste, elle s'est mise par la foi sous la protection de ses représentants du peuple d'Israël. Elle a pris ce seul vrai Dieu, l'Éternel, comme son Dieu. Par la foi, elle est devenue membre à part entière du peuple de Dieu. Il s'en est suivi une métamorphose impensable. Cette femme qui était d'un peuple destiné à la destruction est devenue membre à part entière du peuple de Dieu. Et ce qui est remarquable dans ce récit, c'est que le plan des hommes, et en particulier celui de Josué, c'était d'envoyer des espions pour voir les points faibles de la ville et emporter la victoire. La suite des événements nous montre que la victoire n'a pas été remportée par cette méthode. On sait comment la conquête de la ville s'est faite, par l'action de Dieu qui a fait s'écrouler les murailles, certainement pas par les renseignements rapportés par les espions. Le seul résultat obtenu par l'envoi des espions, ça a été le salut de Rahab. Dieu avait vu dans cette population pervertie et idolâtre une personne susceptible de l'accepter comme son Dieu. Pas une personne irréprochable, c'était une prostituée, mais une personne prête à se remettre en question. Alors Dieu a mis à cœur à Josué d'envoyer deux hommes dans la ville, même si Josué ne savait pas pourquoi, Dieu avait un plan, et il a permis que ces hommes rencontrent Rahab et qu'ainsi elle soit sauvée. Qu'elle soit sauvée, non seulement elle, mais aussi tous ceux de sa famille, tous ceux qui ont accepté d'entrer dans sa maison. Son salut, ça a été un salut partagé. On lit dans le livre de Josué, au chapitre 6, versets 22 à 25. Donc je vais vous lire le texte de Josué, chapitre 6, les versets 22 à 25. Josué dit aux deux hommes qu'il avait envoyés pour explorer le pays: allez à la maison de Rahab, la prostituée, et faites-la sortir de là avec les siens, comme vous le lui avez juré. Les deux hommes y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, ses biens et toute sa parenté. Et ils les installèrent en dehors du camp d'Israël. Puis ils brûlèrent la ville avec tout ce qui s'y trouvait, excepté l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer que l'on déposa dans le trésor du sanctuaire de l'Éternel. Josué laissa la vie sauve à Rahab, la prostituée, ainsi qu'aux membres de sa famille, et il épargna tous ses biens parce qu'elle avait caché les hommes que Josué avait envoyés en reconnaissance à Jéricho. Et elle a habité parmi les Israélites jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, Rahab, si elle a pu partager son salut, c'est parce qu'elle s'est employée à faire entrer dans sa maison tous ceux qui lui étaient chers. Et c'est ainsi qu'ils ont pu être sauvés. Faire partie de la famille de Rahab ne suffisait pas pour être sauvé. Il fallait entrer dans la maison. Je ne pense pas que ça a été facile pour elle de convaincre ses proches. Il fallait déjà qu'elle reconnaisse auprès d'eux avoir hébergé et protégé des hommes ennemis de son peuple. Il fallait ensuite affirmer sa foi envers ce Dieu des Hébreux, l'Éternel. Autrement dit, c'était renier ses propres dieux, les dieux de ses contemporains, de sa ville. Il fallait aussi expliquer sa confiance en la parole de deux espions ennemis. Il fallait aussi convaincre que ce petit cordon rouge placé à la fenêtre suffirait à les protéger. Et pour être sauvée, il ne suffit pas de convaincre ses proches d'entrer chez elle. Ce n'était pas simplement une invitation à prendre le thé. Imaginez tout le temps qu'il a fallu attendre. Pendant 7 jours, le peuple hébreu a fait le tour de la ville avec la troupe, les sacrificateurs, les trompettes retentissantes. Et c'est seulement lorsque le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la muraille, que ces murailles se sont écroulées et que Rahab est devenue crédible. patiemment. Elle a maintenu durant une semaine toute sa famille chez elle sur la muraille, seulement protégée par un cordon rouge, alors qu'en toute logique, toute sa famille devait avoir envie d'aller se réfugier au centre de la ville et non pas sur la muraille. Sérieusement, je pense que l'on trouve peu de personnes qui ont fait preuve d'une aussi grande foi et d'une aussi grande ténacité que cette Rahab. Mais elle avait compris que c'était son seul recours. Elle savait que se cacher n'aurait servi à rien, ou que se battre aurait été inutile. Alors, elle a fait le saut de la foi. Pas étonnant que son nom figure parmi la liste des héros de la foi qui sont mentionnés dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 31. Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Oui, elle est placée dans cette liste des héros de la foi entre Moïse et Gédéon. Est-ce que vous n'aimeriez pas un tel destin, avoir votre nom dans la liste des héros de la foi de la Bible? Et puis, portez en vous les ancêtres du Sauveur. C'est une destinée formidable, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que nous sommes un peu tous des Rahab, ou plutôt que nous pouvons être comme elle, si nous nous reconnaissons comme les disciples de Christ. Pas de doute, nous étions comme cette Cananéenne, destinée à la mort par notre nature humaine, comme écrit Paul dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, le verset 3. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Comme Rahab, nous étions un personnage sans avenir, ici d'un peuple maudit et très exposé. Romains chapitre 3, verset 23 dit « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire, de la glorieuse présence de Dieu. » Nous sommes, nous aussi, comme cette habitante de la muraille, exposée dans notre monde aux attaques de l'ennemi. Pierre, dans son épître au chapitre 5, verset 8, dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Toutes ces similitudes nous mènent au même constat qu'a fait Rahab. Le salut ne peut venir ni de notre peuple, ni de notre décence, ni de nous-mêmes. Les protections et les murailles de ce monde ne sont qu'un piège qui peuvent nous exposer à la mort. Alors il nous reste, comme Rahab l'a fait, à recevoir non pas deux espions, parce que Dieu ne nous a pas envoyé deux espions, il nous a envoyé Jésus comme sauveur et le Saint-Esprit comme guide. C'est ce qui peut changer nos destinées. En mettant notre foi en Jésus qui a pris le risque de venir jusqu'à nous, là où le péché régnait, si nous l'avons accepté comme sauveur et comme Seigneur dans nos vies, si nous avons aussi accepté le Saint-Esprit comme conseiller et comme guide, en quelque sorte, si nous avons accepté de changer de camp pour devenir membres du peuple de Dieu en nous soumettant à lui, alors nous serons comme reconnus comme tels. Rahab avait dit « L'Éternel est le seul Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Eh bien, si notre démarche est la même, en croyant à la grâce de Dieu comme Rahab l'a fait, nous nous sommes mis sous le sang de Jésus et sans tarder comme Rahab, qui a aussitôt mis le cordon rouge vif à sa fenêtre, eh bien nous sommes passés du camp du vaincu au camp du vainqueur. Comme Rahab, nous devons faire une rencontre opportune. L'apôtre Paul, dans sa lettre sa première lettre à Timothée, au chapitre 1, versets 15 à 16, écrit « Voici une parole sûre qui mérite d'être acceptée par tous. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais Dieu a eu pitié de moi. Alors le Christ Jésus a pu montrer toute sa patience pour moi, le premier des pécheurs. C'est un exemple pour ceux qui croiront en lui et qui recevront la vie avec Dieu pour toujours. » Comme Rahab, c'est la foi qui peut nous sauver. Dans la lettre aux Éphésiens, toujours Paul, il a écrit au chapitre 2, versets 8 à 10, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car notre union avec le Christ Jésus, Dieu, nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. » Comme Rahab, pour notre vie, une métamorphose est indispensable. C'est toujours l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 1, verset 5, qui écrit « Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et, depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. » Comme Rahab aussi, nous avons cette opportunité d'avoir un salut partagé. Comme Rahab, je pense que nous avons envie de mettre à l'abri ceux que nous aimons. Pour Rahab, nous avons dit tout à l'heure que ça n'a pas été simple, mais je crois que ce qui a été déterminant, c'était sa propre conviction, sa propre assurance, sa détermination à montrer à son entourage que sa foi n'était pas une lubie. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 20, c'est Jésus qui, dans une prière, disait « Je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles. Que tous soient un. Père, tu vises en moi et je vise en toi, de la même façon que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu nous as envoyés. » Savoir que Jésus a prié pour ceux à qui le témoignage du salut serait apporté, n'est-ce pas pour nous un encouragement à parler à ceux qui nous entourent? Nous avons un salut, une grâce qui nous a été accordée, que nous avons tous reçue, j'espère. En tout cas, c'est mon souhait. Mais c'est un salut que nous avons aussi à partager à ceux qui nous entourent, ceux qui nous sont chers, mais aussi ceux qui nous sont proches géographiquement. Et je pense que ça ne peut pas se faire autrement. Rahab, la première pensée qu'elle a eue quand elle a demandé le salut, elle ne l'a pas demandé. Elle n'a pas dit « Permets que je sois sauvé ». Elle a dit « Permets que mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère et moi-même, nous soyons sauvés. » Elle avait ce souci-là. Eh bien, je pense que si nous avons tous ce souci-là de partager le salut et que notre foi est le fruit d'une conviction, d'une vie vécue avec Dieu, je pense qu'alors la foi qui sauve, qui nous sauve, sera aussi la foi qui sauve nos proches. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, qu'il bénisse chacune de nos familles et qu'il permette à chacun de se mettre au clair et à jour avec sa foi en Dieu, à savoir si, oui ou non, nous avons changé de camp, à savoir si, oui ou non, nous faisons partie du peuple de Dieu.